Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre
esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité.
Acclamons la parole de Dieu.
Louons à toi, Seigneur Jésus.
Si l'Esprit Saint a rendu vos oreilles attentives à la parole de Dieu, chers frères et sœurs, dans ce dimanche où nous sommes entre l'Ascension et la Pentecôte, vous aurez remarqué qu'on nous parle dans cette messe de trois unions, ou plutôt de trois relations d'unité entre des personnes. Est-ce que vous arrivez à retrouver ces trois unions ou ces trois relations d'unité entre les personnes? On pourrait faire une sorte de concours si on avait des télécommandes à nos sièges, faire une sorte de quiz avec les réponses. Mais en attendant, je vous donne un indice. Ces trois unions, nous pouvons les retrouver dans la première lecture et dans l'évangile de ce jour. Et si vous les avez trouvées, ces trois relations d'unité, il s'agissait bien sûr de l'unité des apôtres, des 12 apôtres, de l'unité des disciples, on peut l'étendre à l'unité des fidèles, et de l'unité des personnes divines. On nous parle de ces trois unités dans les lectures de ce jour. Et cette unité, on voit qu'elle est au cœur de la prière de Jésus. Nous avons entendu ce passage merveilleux, « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom ». C'est le cœur de la prière de Jésus, et c'est cette même sollicitude qui anime Pierre lorsqu'il rassemble les disciples pour procéder à l'élection de Matthias. Et vous savez que ça n'est pas un hasard si on appelle le pape, qui est le successeur de Pierre, le vicaire du Christ. C'est parce qu'il partage justement ce même souci de l'unité, ce même désir d'unité que formulait Jésus à ses disciples pendant son dernier repas. Et bien sûr, vous savez que cette unité est loin d'être évidente et même qu'elle est très difficile, puisque quand Jésus parle, il va être trahi par Judas, il le sait. Et puis, lorsque l'élection de Matthias a lieu, les apôtres, les disciples savent qu'ils vont endurer des persécutions. Ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, nous sommes avant la Pentecôte, mais ils pressentent quand même que les temps ne vont pas être forcément très faciles. Et c'est pour ça que l'unité est difficile. Mais le Seigneur, c'est toujours l'unité qu'il recherche. Nous entendons cette phrase, le bon pasteur rassemble son troupeau. Et c'est toujours par cette recherche d'unité du Seigneur que le Seigneur vient nous sauver. Il appelle des disciples, il les met à part, il les garde unis à lui et il les garde entre eux. Et c'est comme ça que Dieu a choisi sa stratégie pour sauver le monde. C'est la mission de l'Église de parvenir à cette unité et c'est le sens de l'Eucharistie, l'unité. Il n'y a pas d'autre sens que celui de l'unité pour que tous soient rassemblés dans l'Église faite pour notre salut. Et ce passage d'Évangile aujourd'hui, il nous parle d'abord des prêtres, les prêtres qui doivent justement être les serviteurs de l'unité. Alors c'est ce que je voudrais que nous regardions dans cette homélie, mais vous verrez que ce qui concerne les prêtres concerne aussi tous les baptisés. Et pour approfondir ce thème de l'unité et des prêtres, je vais essayer de répondre à deux questions. La première, c'est quelle est la première mission des prêtres ? Première question. Et la seconde question, c'est pourquoi les prêtres célèbrent-ils l'Eucharistie ? Je vous donne tout de suite la réponse à la première question. Quelle est la première mission des prêtres ? La première mission des prêtres, c'est la consécration, c'est-à-dire l'unité du prêtre avec Dieu. Nous avons entendu cette phrase dans l'Évangile « Sanctifie-les dans la vérité ». On peut le traduire par « Consacre-les dans la vérité ». Qu'est-ce que ça veut dire cette unité du prêtre avec Dieu ? C'est que sa première mission, c'est de rechercher l'obéissance au Père, l'amitié avec Jésus et la disponibilité à l'Esprit-Saint. Et justement, cette phrase « Sanctifie-les dans la vérité » et un peu plus loin, « Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. » C'est une phrase dont on ne parle pas si souvent que cela, mais pourtant, c'est une phrase absolument clé, parce qu'elle rassemble en quelque sorte l'institution du sacerdoce, la transmission que Jésus fait dans son dernier repas de son sacerdoce. Jésus se consacre, il devient prêtre de la Nouvelle Alliance, et il transmet ce sacerdoce, il transmet cette mission à ses apôtres. Donc cette phrase est très importante, consacrer, sanctifier, c'est toujours être choisi par Jésus pour être avec lui et développer cette unité avec lui. Quand Jésus institue ses 12 apôtres, eh bien, c'est pour être avec lui. Alors je précise quand même que le lien entre les apôtres et les prêtres, c'est que les évêques qui sont les successeurs des apôtres ont pour les aider des prêtres. Donc il y a une continuité entre les apôtres qui deviennent prêtres et les prêtres que vous avez devant vous. Donc si Jésus institue les 12 apôtres, c'est d'abord pour être avec lui. C'est ce que nous voyons dans les évangiles, dans l'évangile de Saint Marc par exemple, chapitre 3, verset 14. C'est dit que Jésus institue les 12 pour être avec lui. Il les institue pour être avec lui, pas pour une mission de prédication et de transmission des sacrements. Cela viendra dans un second temps, mais d'abord pour être avec lui. Parce que Jésus fonctionne toujours comme cela. Il choisit un homme, il choisit Abraham, il choisit une femme, Déborah, pour être juge par exemple. Il choisit le peuple des Hébreux. Il choisit toujours une certaine fraction de personnes ou une personne, et puis il s'en occupe, il garde ce petit groupe dans son unité, et c'est comme ça qu'il transmet le salut. Donc vous pouvez vraiment reprendre les prêtres s'ils ne prient pas, parce que c'est leur première mission. C'est la même gravité qu'un père de famille qui ne s'occupe pas de sa famille, qui oublie sa famille, qui ne passe aucun temps avec elle. La première mission, c'est d'être avec lui. Et regardez justement, chers frères et sœurs, le critère qui avait été choisi pour trouver un 12e apôtre, un apôtre qui remplacerait Judas. Ce critère, c'était pas l'éloquence ou la compétence managériale, mais ça devait être un homme qui avait accompagné Jésus dans toute sa vie publique, depuis le baptême de Jean jusqu'à l'ascension. Donc c'était vraiment un critère de proximité, de familiarité avec Jésus pour que un apôtre puisse remplacer Judas. Une paroisse où il n'y a pas d'unité entre les prêtres, une paroisse où les prêtres ne prient pas, je pense que cela se ressent tout de suite. La seconde question, c'était pourquoi les prêtres célèbrent l'Eucharistie. Jésus a prié pour nous dans sa passion et il continue de le faire jusqu'à la fin des temps. Et c'est le seul qui est capable de réaliser notre unité. Nous savons bien qu'avec nos propres forces, nous ne sommes pas capables de réaliser notre unité, surtout entre des personnes si différentes, entre les personnes si différentes qui composent une paroisse, qui composent l'Église. Et c'est d'abord l'Eucharistie qui permet cette unité. Lorsque nous participons à la messe, à l'Eucharistie, nous sommes transformés, nous devenons d'autres Christ et nous sommes assimilés, rattachés, nous sommes intégrés au corps du Christ. Et c'est pour cela que nous pouvons, à l'Église, nous appeler frères et sœurs. Ça n'est pas une figure de style, mais c'est vraiment la réalité de l'unité que réalise entre nous l'Eucharistie. C'est par cette appellation que Pierre commence son discours avant l'élection de Matthias. Frère, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Et le prêtre célèbre l'Eucharistie parce que s'il est consacré, s'il est mis à part, c'est d'abord pour être serviteur de l'unité, il est le serviteur de la sainteté des baptisés. Et c'est bon de se le rappeler dans cette période où toutes les distinctions, toutes les consécrations sont parfois vécues comme une injustice. Jésus appelle des hommes pour qu'ils servent leurs frères, mais il ne s'agit pas d'une hiérarchie qui irait du haut vers le bas, mais toujours du bas vers le haut. Vous voyez, l'Église, ça n'est pas le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres et puis les petits baptisés en bas. Mais c'est vraiment le contraire. C'est le pape qui est garant de l'unité, les évêques qui sont les successeurs des 12 apôtres et les prêtres qui sont les collaborateurs des évêques qui sont en bas pour que les baptisés puissent vivre leur sainteté, puissent recevoir la nourriture et l'unité intérieure, l'unité entre eux, l'unité avec le Seigneur, pour qu'ils puissent porter du fruit, pour que vous, chers frères et sœurs, vous puissiez porter du fruit. Parce qu'il y a une seule grandeur dans l'Église, il y a une seule aristocratie, c'est-à-dire le pouvoir des meilleurs dans l'Église, c'est la sainteté. Les plus grands dans l'Église, ce n'est pas le pape et les cardinaux, mais ce sont les saints. Et c'est vraiment ça que nous recherchons, et c'est ça que le Seigneur a tant désiré dans sa prière sacerdotale, pendant son dernier repas. Il a tant désiré cette unité avec Dieu, cette unité entre nous qui est seule capable de nous conduire à la sainteté et au déploiement de toutes les grâces que le Seigneur a placées en nous. Pour terminer, je voudrais simplement illustrer cette recherche de l'unité par un épisode de la vie du Saint curé d'Ars, qui est vraiment le modèle des prêtres. Parce que lorsqu'il arriva jeune prêtre dans le village d'Ars pour en devenir curé, c'était pendant le rude hiver 1818, il découvrit une paroisse qui était assez peu unie entre elle et assez peu unie à Jésus. Il y avait très peu de gens qui communiaient et il y avait assez peu de pratiquants vraiment fervents. Alors comment fit-il ce saint curé d'Ars pour créer une véritable relation d'unité entre les paroissiens et avec le Seigneur? Et bien c'est tout simple, il arriva à la messe et il vit qu'il y avait 3-4 femmes pieuses qui venaient à la messe tous les jours, mais qui n'avaient pas l'habitude de communier tous les jours. Alors il leur proposa de communier tous les jours, et puis petit à petit il leur apprit à réciter le rosaire, à prier, et ensuite, deuxième étape, il les encouragea à prendre auprès d'elle les petites filles dont les mères ne pouvaient pas s'occuper parce qu'elles travaillaient pendant la journée. Et puis, de fil en aiguille, le petit groupe était de plus en plus fidèle, de plus en plus uni à Jésus, de plus en plus uni entre eux, entre chaque personne. Et ce groupe continua à grandir, et c'est simplement par cette attraction que d'autres femmes, d'autres jeunes filles se joignaient à ce groupe. Et petit à petit, certaines femmes abandonnaient leurs occupations qui n'étaient peut-être pas idéales, qui n'étaient sans doute pas toujours bonnes, pour se joindre à ce groupe. Et le phénomène, un phénomène similaire se produisit pour les hommes lorsqu'ils voyaient toutes les femmes se rendre à ce groupe de prières, de prières du rosaire, à la messe. Eh bien, ils se sont dit qu'il était peut-être bon de faire de même. Alors, ils ont fait leur groupe pour discuter des affaires de la paroisse et pour prier. Et puis, petit à petit, ils ont compris que ça n'était pas une bonne chose de travailler le dimanche. Alors, ils se sont mis à aller à la messe le dimanche, à arrêter de travailler le dimanche. Et puis, comme les ouvriers ne travaillaient plus le dimanche, eh bien, les autres villages faisaient pareil. Les ouvriers demandaient à ne pas travailler le dimanche, puisque ceux du village d'Ars ne travaillaient pas le dimanche. Et comme ça, petit à petit, le curé d'Ars a recréé l'unité dans sa paroisse, dans le village d'Ars, l'unité entre les personnes, l'unité avec le Seigneur. C'est la même chose qui nous demande de faire et de rechercher, chers frères et sœurs, dans ce dimanche, que nous puissions vraiment rechercher cette unité à Dieu, cette unité entre nous, que nous puissions rejeter toute division, tout en étant bien conscients que nous ne pouvons pas surmonter nos divisions par nos propres forces, mais c'est simplement le Seigneur qui le réalise par son Esprit Saint. Demandons cette unité à Jésus, qu'il désire tant pour nous, unité avec lui et unité entre nous. Amen.